Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Et à toutes, vous écoutez l'émission Le Domaine du Possible sur Radio Grand Ciel, une émission qui nous met en relation avec des façons d'être et de vivre ensemble, différentes, bienveillantes et créatives, en lien avec la nature. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser à Findorn. Findorn est un des éco-villages les plus aboutis et reconnus dans notre société. Son histoire est intéressante car elle a démarré de presque rien pour devenir aujourd'hui le village avec une empreinte carbone très faible et un rôle important auprès de l'ONU en tant que conseil en développement. L'histoire a commencé en 1962 lorsque Peter et Eileen Cady se sont installés sur les rives sableuses et venteuses du nord de l'Écosse dans une simple caravane. Aidés de leur amie Dorothy MacLean, ils se disent guidés par des esprits de la nature et arrivent à sortir de ces terres arides un magnifique potager qui attire de nombreux sceptiques. Convaincue par le résultat, une communauté s'installe et bâtit des habitations de fortune. En 1985, le projet d'éco-village est né. Aujourd'hui, le village comprend environ 500 habitants et reçoit des milliers de visiteurs tous les ans pour des stages de développement personnel qui sont le reflet d'une recherche collective et individuelle du sacré dans toute vie. Isabelle Malezé, aujourd'hui coordinatrice du groupe Colibri de Chartres, a eu l'opportunité de passer plusieurs mois dans cette communauté exemplaire en termes de relations avec la nature. Elle nous raconte la vie dans ce lieu exceptionnel.
Je voulais savoir ce qui t'avait attiré au départ et comment tu t'es retrouvée à aller à Findorn.
Je me suis retrouvée à Je suis partie à Findorn, en fait, parce que une amie japonaise m'a dit, y avait été, et m'a dit, Isabelle, il faut absolument que tu ailles à Findorn. Si tu as l'occasion, va voir leur site, regarde leur programme, et va découvrir Findorn. C'est formidable. Tu vas trouver quelque chose qui va te plaire là-bas, c'est sûr. Comme c'est une femme qui est sensible à l'écoute des autres et tout, j'ai enregistré l'information. Et puis, un jour, j'ai été voir le site et je me suis dit « Ah oui, c'est intéressant, j'ai été regarder le programme. » Et j'ai vu un programme qui m'intéressait. Et puis, je suis partie à Findorn pour suivre ce programme spécifiquement. Et puis, c'était des sessions d'une semaine. Et la deuxième fois que j'y étais, la première fois, je me suis dit « Oh, c'est court, une semaine. » J'avais été tellement dans un monde où les rapports humains étaient très différents, très apaisés. Et puis j'avais été très loin, probablement, moi aussi. Et donc je me rappelle avoir changé, je ne sais plus quel était l'aéroport. J'avais été agressée. J'avais l'impression que moi, j'étais complètement au ralenti. C'était comme s'il y avait deux mondes parallèles. Moi, dans une espèce de bulle encore, et pas encore en contact avec le monde dans lequel je revenais, qui était le monde de l'agitation, de la montre qui tourne et qu'on surveille en permanence, du stress, du bagage perdu, de où ai-je mis mon papier, mon téléphone, ma carte d'embarquement, enfin bon. Voilà, donc en tout cas, cette première semaine, ça m'avait paru passer très vite. Du coup, l'année suivante, je suis retournée pour suivre de nouveau une formation. Et puis, je me suis dit, oh, je vais prolonger, je vais faire une deuxième semaine. Et comme deuxième semaine, j'ai fait Work Experience Week. Experience Week, c'est le module de base à Findorn pour expérimenter la vie dans un éco-village. En tout cas, pas dans un éco-village, dans sept éco-villages.
Très spécifique.
très spécifique, parce que c'est une communauté de gens qui ne se sont pas regroupés autour d'une spiritualité particulière. Ce sont des gens qui ont chacun individuellement leur propre spiritualité et où on peut développer sa spiritualité, mais surtout leur communauté, c'est une communauté d'intérêt pour créer un monde différent, expérimenter les voies qui nous permettront peut-être d'arriver à un nouveau paradigme. En tout cas, c'est vraiment un laboratoire depuis 50 ans, c'est un laboratoire de vivre autrement.
Déjà aussi revenir sur le fait que c'était reconnu comme le village qui a la plus faible empreinte carbone. Donc je voudrais voir tous les aspects qui font que c'est un village très écologique. Qu'est-ce qui fait dans l'organisation que c'est un village qui fonctionne avec une très faible empreinte carbone ?
Alors très faible, tous les composants sont là. Hein, et on reste quand même dans la perspective que c'est un village qui s'est construit au cours des 50 dernières années. Donc la technologie que nous avons aujourd'hui n'était pas forcément disponible au moment où ça a démarré. Mais en tout cas, si je regarde la construction de l'éco-village lui-même, dès le départ, ce qui a habité les premiers membres de la communauté et de la fondation, ça a été de s'intégrer à la nature. Donc ça a été leur première recherche. Et puis, n'oublions pas qu'ils travaillaient aussi à l'économie. Donc tout ce qui allait dans le sens de l'économie et des matériaux et de l'économie des matériaux et de l'économie d'énergie. Les maisons par exemple à Finlorn ont été construites, on a testé plein de modèles différents. Donc ça va de la barrique de whisky où j'ai récupéré des barriques pour des maisons en bois, j'ai des maisons en paille, j'ai toutes les maisons. Là, c'est le village des trois petits cochons plus. Il y a des maisons, il y a une, mais en fait c'est pas une maison, mais c'est une salle de réunion qui est un petit bâtiment qui est à moitié enterré et qui est construit donc avec, qui est moitié enterré, donc qui est directement inclus dans la terre, et dont les murs au-dessus du niveau du sol sont en pierre. Et dont le toit est un toit entièrement végétalisé. Après, il y a beaucoup de maisons qui sont faites en bois. Il y a aussi un nombre considérable de maisons qui sont faites en ballot de paille. Au niveau de l'énergie, très rapidement,
il y a des éoliennes.
C'est pareil. Il y a eu du crowdfunding et de la contribution collective à l'acquisition d'éoliennes qui sont implantées à quelques centaines de mètres du village. De fait, le village est totalement autonome en matière d'électricité et il est même en énergie positive puisqu'il revend une partie de sa production, à la société d'électricité locale. Et puis, il y a un système qui est vraiment magnifique, qui est sur le traitement des eaux grises et des eaux noires. Système complètement naturel, qui est assez sophistiqué, en ce sens qu'il passe par une filtration minérale et par une filtration végétale. Et donc, tout le système de filtration des eaux du village finissent par aboutir dans un bâtiment qui est très léger. Hein. Ça ressemble à ça ressemble de l'extérieur et même de l'intérieur à une très grosse serre remplie de barriques. Toutes ces barriques sont plantées, donc on a vraiment le sentiment, la sensation, l'impression de rentrer dans une serre énorme. Ça sent pas mauvais du tout. Et ça, c'est la dernière zone de filtration, uniquement des eaux, uniquement par l'intervention des plantes. Et ça, c'est the living machine, la machine vivante, comme ils l'appellent. Et c'est comme ça que, voilà, que c'est en additionnant tout ça qu'on arrive à la plus petite empreinte carbone.
Et il y a le système de partage aussi qui fait que c'est beaucoup plus sobre, dirais, en consommation. Alors, comment ça se concrétise au niveau du partage de la communauté ?
Alors, au niveau de la communauté, alors, chacun vit chez soi, hein, sauf les jeunes célibataires qui sont souvent dans des maisons collectives. Ce qui est en commun en termes d'équipement, bah, outre le système de chauffage, hein, c'est déjà énorme, hein, les gros équipements, mais par ailleurs, personne n'a sa propre machine à laver. Il y a un bâtiment dans le village qui est une buanderie.
Et le partage des tâches aussi
Le partage des tâches, évidemment. Le
jardinage.
Il y a en fait deux niveaux. Il y a deux niveaux d'intervention. Si je regarde les membres de la communauté, il y a des membres de la communauté qui travaillent pour la communauté. Mais par ailleurs, les autres membres de la communauté qui ont leur job en dehors de la communauté donnent de leur temps à la communauté en fonction des besoins des différents secteurs à un moment ou à un autre de l'année.
D'échange des services.
C'est même pas un échange de services, c'est du temps qu'on donne à la communauté. On a un minimum de contribution à la vie collective qu'on donne.
Il y a d'autres rituels de reliance à l'autre qui ont lieu pendant les activités ?
Oui,
t'ont paru au départ, un peu innovantes ou différentes.
Oui, qui m'ont paru très différentes dans la relation de travail, tout simplement.
Oui.
Lorsqu'on est dans un des départements, on rejoint son poste de travail. La première chose qu'on fait, on fait un cercle dans son lieu de travail. On se tient par la main, un peu, on fait une mini ronde. En se tenant simplement par la main, on ferme les yeux, on prend une grande inspiration pour se fixer, pour rentrer dans le lieu, pour rentrer dans l'activité dans laquelle on va être toute la matinée et peut-être même toute la journée. Et donc on reprend contact avec le lieu, avec le travail et avec l'équipe. Le deuxième moment, avant d'avoir commencé à prendre un torchon ou une casserole, le deuxième moment, c'est que on s'assied autour d'une table avec une boisson chaude, éventuellement, et que on fait un premier tour de table, on fait une petite météo personnelle avant de commencer à travailler. C'est vraiment une façon de se débarrasser éventuellement des soucis avec lesquels on est arrivé ou des contrariétés pour éviter qu'elles nous accompagnent. Ça peut être aussi le moment de dire « je suis d'une humeur radieuse aujourd'hui, je vais vous en faire profiter ». Mais ça peut être l'occasion de dire « j'ai mal dormi, je suis un peu ronchon, le bébé fait ses dents et il m'a empêché de dormir ». Et donc tout le monde comprend dans l'équipe que bon, bah, ce ne sera pas forcément la meilleure Isabelle de la journée ou de l'année, mais bon, ma foi, voilà, c'est intégré. Et le fait d'avoir dit aussi au reste de l'équipe, voilà, je ne suis pas en super forme aujourd'hui, je m'entends le dire, c'est une façon de m'en libérer, de laisser un peu fuir les dents du bébé, la nuit mal vécue, et le fait d'entendre que ma voisine, qui va être ma compagne de travail ce jour-là, elle va me faire bénéficier de son humeur radieuse, je pouvais peut-être me consoler grâce à cette combinaison d'énergie un peu différente. Et donc voilà, on donne sa petite météo personnelle et je crois que les gens n'hésitent pas du tout. Ça fait beaucoup de bien et à tout le monde. Une fois donc on a repris contact, une fois qu'on a donné sa météo personnelle, le facilitateur dit voilà, aujourd'hui, voilà la liste de choses que j'ai enregistrées comme étant à faire. Et là, le facilitateur dit, ok, je vous relis encore une fois, et il demande à chacun ce qu'il va faire. Et chacun va choisir une tâche. Il faut nettoyer toutes les fenêtres de la salle à manger. Ben, quelqu'un va choisir cette tâche-là, enfin plutôt plusieurs.
On prend sa place, beaucoup. En quelque sorte.
Donc chacun prend sa place en fonction
De du jour, de l'humeur.
Je sais que je suis dans tel département. Aujourd'hui, il faut récurer les toilettes du premier étage. Qui prend les toilettes du premier étage? Ah, c'est moi. Ok, c'est bien.
Et on sent une prégnance de la spiritualité. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de sacré qui s'y passe à Findhorn?
Oh, je crois que ce qui est sacré à Findhorn, c'est cette recherche permanente d'être dans le respect de la vie dans tous ses aspects. On est complètement dans une... C'est pas une quête, c'est... on réalise tous les jours et ça aussi c'est aussi au-delà d'une démarche naturelle, c'est aussi une démarche réfléchie et consciente de personnalités qui sont là aussi pour gommer l'illusion de la séparation. Donc je crois que si je devais chercher la racine commune de la spiritualité de chacun des individus qui composent aujourd'hui cette communauté, ce serait ça. C'est sortir de l'illusion de la séparation. La nature, c'est aussi nous. L'autre, c'est moi. Il n'y a pas la nature et les humains. Il y a un élément qui est la nature et dans lequel il y a des humains, des arbres, des pierres, des vagues, du vent, du soleil et bien d'autres choses. Et voilà. Ouais, et... je crois que c'est ça le cœur de la spiritualité. Après, ça s'interprète au niveau de chacun. Il n'y a pas de jugement à Findhorn. On peut être bouddhiste, protestant. Il y a des gens qui vont le dimanche à l'église de la preuve du village. Et il y a des gens qui sont bouddhistes, et on peut être de toutes les religions de la planète. Il n'y a aucun jugement du moment que personne n'impose de dogme à qui que ce soit.
Il y a quand même des célébrations.
Il y a des célébrations, effectivement, il y a des célébrations collectives. Il y a des célébrations collectives.
Des danses.
Et il y a des danses qu'on appelle des danses sacrées et qui sont... ce qu'on appelait autrefois chez nous, ici en France, des danses folkloriques. Parce que derrière, ce qui paraissait très démodé, je me rappelle, lorsque j'étais enfant, des « Ah non, danses folkloriques, oh là là, quelle horreur !» C'était presque une punition. ça paraissait un peu ringard. Et en fait, c'est une activité, c'est vraiment une activité de village, c'est une activité qui rassemble. Ces danses de groupe, on les redécouvre. Alors, on peut danser à Findhorn des danses qui ne sont pas que des danses écossaises. Hein. On danse des danses qui viennent d'un peu partout. Ça peut être une danse d'origine grecque qu'on dansait à l'occasion des mariages, ou on peut danser des danses qu'on dansait, je ne sais pas, au Portugal au moment du solstice d'été. Enfin bref, on redécouvre finalement des modes de célébration, d'événements qui sont importants à certains moments de l'année.
Comment tu l'as vécu, toi, en tant qu'occidentale?
La première fois qu'on m'a mise dans un cercle pour faire une danse, j'ai eu exactement la réaction que j'aurais eue lorsque j'avais 10 ans. et ou peut-être 14 plus tôt, en me disant mais non, mais ils vont pas me faire ça, quoi. Je vais pas me mettre à danser une ronde ou l'équivalent d'une bourrée. Ça m'a paru extrêmement bizarre. Et puis au bout de 5 minutes, une fois passé le ah mais non, je vais pas faire ça, et après être rentrée dans la danse vraiment et dans le rythme, j'ai juste eu un immense plaisir à précisément déclencher cette espèce de fourmillement qui est à la fois physique et intérieur et que déclenche la musique et le mouvement du corps en harmonie avec la musique. Tout d'un coup, on s'amuse, on rit, on se trompe de pas, mais c'est pas grave parce que personne ne juge.
Et les chants aussi, donc, participent de ça ?
Oui, ça participe de ça, et puis ça participe aussi simplement de l'expression, de la libération de l'expression, d'une expression personnelle. Parce que là, ça peut devenir du collectif, mais c'est avant tout personnel.
Tu en as gardé, toi, de tout ça ? Pas forcément ça, le sacré, le côté écologique. Tu es revenue avec quoi ?
Je suis partie, donc, souvent. D'abord, le fait d'y revenir, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, j'ai encore des choses à y apprendre, et donc j'y retourne. Pour mieux intégrer, pour mieux comprendre, pour mieux me révéler à moi-même, pour mieux intégrer des choses qui font partie de moi et que je peux laisser ou qui vont peut-être plus s'exprimer là-bas qu'ici. Et puis, je peux y retourner aussi simplement parce que ça fait du bien. Et qu'est-ce qui fait du bien à Finland, bien que le temps soit pas toujours le temps, je veux dire la météo,
oui.
bien que le climat soit pas forcément celui dont on peut rêver. Qu'est-ce qui fait du bien, c'est que justement il est possible d'expérimenter des choses nouvelles et d'avoir une espèce de liberté très paisible d'être soi-même, sans être dans une démarche angélique. C'est aussi peut-être une forme d'expérimentation, d'appréhender ma relation à l'autre de façon pas offensive et peut-être même pas défensive. C'est vraiment une expérience très particulière d'approcher l'autre sans a priori. Sans jugement et sans a priori, de laisser s'exprimer et de s'exprimer soi-même, de dire soi et d'entendre l'autre. Je parle même pas du facteur écologique. Oui, si, le facteur écologique, il est là aussi, parce que finalement, c'est aussi une forme d'écologie intérieure et d'intégration à une écologie environnante, c'est-à-dire un équilibre naturel dans lequel l'être humain s'inscrit à tout point de vue.
C'est difficile de prendre soin de soi si on ne prend pas soin de notre environnement.
Aussi, oui. Mais in fine, tout est lié. Après, j'aurais beaucoup de mal à finalement dissocier les choses. Chaque fois, ce qui me revient, c'est que tout est lié. Tout est lié.
On entend là les chants de Thésée, souvent repris au sein du village de Findorn. Je voudrais remercier Isabelle d'avoir partagé avec nous cette expérience de vie communautaire. Ça a été pour moi une véritable plongée en images et en sons, à la lecture des vidéos sur Internet, en boucle, plongée au sein de cette communauté si proche de la nature et du sacré. En tout cas, ça m'a transportée. Merci Simon pour son aide précieuse. On se retrouve le mois prochain ou en podcast sur le site de Radio Grand Ciel, l'émission Le Domaine du Possible. À très bientôt pour d'autres découvertes et d'ici là, portez-vous bien. There's a place I can get to where I'm safe from the city blues. It's clean and it's quiet. Only trouble was I had to buy it. I'll do anything I got to do. Cut my hair.